Amen. Merci Seigneur, je voudrais partager avec vous la parole dès maintenant et nous aurons l'occasion de prendre la Sainte Cène à la fin du message comme une réponse aussi à ce message. Mais j'ai vraiment une parole précise ce matin. On va ouvrir notre Bible dans Ésaïe 35. Vous allez me dire d'habitude c'est pas précis. Si, si, vous inquiétez pas. Mais là il y a quelque chose de fort, quelque chose de particulier que je voudrais partager avec vous. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 35 et le verset 3. Pour moi, le prophète Ésaïe, avec le livre des psaumes, il a quand même une place particulière dans l'Ancien Testament. Dans mon cœur, je parle, hein. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, il y a vraiment dans les prophéties de cet homme, ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a pu exprimer par le Saint-Esprit, il y a des choses qui sont puissantes. Et c'est encore le cas dans ce que nous lisons maintenant. Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez rien. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Est-ce que vous entendez dans ce verset, dans ces versets, le message, la parole de l'Éternel, ce que la voix du Saint-Esprit nous dit ce matin? Il y a un message qui s'adresse à des personnes particulières, à ceux qui ont les mains languissantes. Il est question d'un message qui peut fortifier, à ceux qui ont les genoux chancelants. Il est question d'un message qui peut affermir, à ceux qui ont le cœur troublé. Le message se résume par ces deux mots en fait. Prenez courage. Prenez courage. Le courage, c'est quelque chose que l'on prend, que Dieu met à notre disposition, mais que nous, en tant que croyants, nous devons prendre. Alors, ce n'est pas une question de quelque chose de facile, hein, mais c'est une réalité, et pour ceux qui l'ont déjà vécu, on sait que c'est vrai. Qu'il y a des moments où on est chancelant, languissant, fatigué, troublé, lassé, et tout ce qu'on pourrait trouver comme adjectifs qui vont bien. Mais dans ces moments-là, c'est le message de l'Éternel. Et j'aime, dans ce texte, ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est là. Il n'est pas question de savoir c'est quoi les raisons qui font qu'on est troublé. Pourquoi est-ce qu'on est languissant? Pourquoi est-ce qu'on est chancelant? En fait, on n'a pas besoin de trop réfléchir là-dessus parce qu'on sait que ça peut arriver. Ça nous arrive à tous à un moment donné, par les circonstances de la vie, il y a des moments où on n'en peut plus. Mais dans ces moments-là, c'est ce message qui est donné dans ces versets, c'est savoir qu'est-ce que Dieu peut faire de la situation. Ben Dieu dit, prenez courage, ne craignez pas, je vais venir. Amen. Quand l'Éternel vient, et en plus il dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Je crois que là, on a la meilleure réponse qu'on pourrait avoir pour être délivré de ces difficultés. Savez-vous que le tout premier acte de courage, c'est pas d'aller en face de l'adversaire et de lui crier plein de choses, ou de prières, d'exorcisation, je ne sais pas quoi. C'est pas ça le courage. Le premier courage, premier acte de courage, c'est de faire tomber l'armure. C'est de descendre de son piédestal et c'est de dire, Seigneur, oui, je suis chancelant. Savez-vous que ça demande du courage, ça? Et souvent, on se trompe de courage. Et on dit, non, j'ai des difficultés, mais je vais faire comme si tout va bien. Je vais surtout pas montrer aux gens que ça va pas. Alors, bien sûr, c'est pas question de montrer tous les dimanches que tout va mal. Non plus. Parce que quand le Seigneur agit, il agit. Mais c'est devant Dieu de dire, Seigneur, je suis vide. C'est ce qu'on a chanté, je suis brisé, je suis chancelant, mais tu me promets, à moi qui ai le cœur troublé, que je peux prendre courage et que les choses vont changer. Savez-vous que les héros de la foi, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais découragés ni jamais apeurés? Mais c'est ceux qui, dans ces moments de découragement, sont capables de reprendre courage. Regardez les exemples dans la parole de Dieu. Regardez dans Hébreux 11, on parle des héros de la foi. Par la foi, ils firent ceci, ils firent cela. Mais regardez les histoires en détail, vous verrez qu'ils ont tous connu des moments de trouble, des moments de fatigue, des moments presque de dépression. Mais dans ces moments-là, avec la grâce du Seigneur, ils sont allés puiser dans la présence de Dieu et ils ont trouvé la force dont ils avaient besoin. On va lire un deuxième texte dans 2 Corinthiens, mais là j'ai mis le cadre de la prédication et on va appuyer dans ce sens. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est un chapitre aussi qui est merveilleux. Ça commence en disant « ne perdons pas courage » et ça continue. Tout le thème, c'est sur le courage et ce qu'il faut faire pour ne pas le perdre. Mais on va juste à la fin, presque la conclusion de ce chapitre, avec une clé pour savoir comment s'y prendre, pour ne pas perdre courage. C'est pourquoi, donc 2 Corinthiens 4, 16, « c'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Vous avez remarqué comment ça commence ? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste ce verset, ça me fait du bien juste de le dire et de le réaliser. Ça veut dire qu'il y a des raisons qui font qu'on peut prendre courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors, à la maison, lisez le chapitre 4 en entier, vous verrez ce que Paul est en train de dire et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément des grâces et des bénédictions dont il est en train de parler, hein. Mais c'est une vision, un état d'esprit de la foi qui lui permet de voir les choses, de voir ce qu'il vit comme des occasions de prendre courage. Et c'est merveilleux. Mais il y a une de ces raisons qui est donnée dans ces versets qu'on vient de lire. Pour voir les raisons qui nous permettent de reprendre courage, il faut mettre des lunettes spéciales. Vous savez, c'est comme quand on veut voir les éclipses et voir le soleil. Il ne faut surtout pas regarder directement parce qu'on peut se brûler les yeux. Il faut mettre des lunettes spéciales. Et ça nous permet ensuite ça filtre la lumière et ça permet d'assister à la scène. Mais il y a des lunettes spéciales à mettre pour voir les raisons de reprendre courage. Alors c'est facile, c'est les lunettes de la foi. C'est être capable de voir ce qu'il y a dans l'invisible. Nous, on a les yeux qui voient dans le visible. C'est la logique, c'est les sens qui sont comme ça. Mais parfois, on voit humainement que notre être extérieur se détruit. Vous êtes d'accord avec ça? On le voit. On voit qu'il y a les cheveux qui blanchissent. On voit qu'on arrive à faire certains efforts. C'est plus difficile de faire certaines choses parce que notre corps vieillit. Mais quand on met ces lunettes de la foi, ces lunettes qui permettent de voir l'invisible, quand on regarde au travers du prisme de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que Paul était capable de voir? Que l'être intérieur se renouvelle. Ça veut dire que l'être intérieur rajeunit. Amen. Ceux qui ont le plus d'années dans la foi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? Que plus vous connaissez le Seigneur, il y a un rafraîchissement, il y a un rajeunissement du fait de connaître le Seigneur dans le cœur. Le corps, c'est une chose, mais le cœur, il y a un renouveau. Le Seigneur ne veut pas que notre foi aille de moins en moins bien. Il veut que notre foi aille de mieux en mieux, ça sera mieux de dire comme ça. Que notre foi s'épanouisse, grandisse et devienne même un modèle pour ceux qui sont autour. C'est pour ça que Paul était capable de dire à Timothée, « Mon enfant, je suis comme un père pour toi, parce que ma foi a acquis une maturité et maintenant je deviens une bénédiction. » Et on sait que c'était pour Timothée, mais pour aussi beaucoup d'autres. Et par le biais de Timothée, lui-même qui est devenu un père, il est devenu grand-père presque, on pourrait dire, par la foi. Humainement, on peut vivre des afflictions, c'est une réalité. Les raisons de se décourager, il y en a beaucoup, et on n'a pas besoin d'épiloguer sur tout ça, parce qu'on connaît par cœur, on y est confronté tous les jours. Mais spirituellement, Paul était capable de dire que quand je suis dans l'affliction, en même temps, je reçois un poids éternel de gloire. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il voyait l'affliction comme une occasion d'être béni. Est-ce qu'on a cette vision-là de l'affliction? Est-ce qu'on a cette vision-là des souffrances? Est-ce qu'on a cette vision-là de l'épreuve? En tout cas, c'est ce que Paul est en train de dire. Par cette capacité de voir de manière spirituelle les choses. On a parlé de cette différence, ce contraste entre la chair et l'esprit. Encore une fois, on a besoin de l'esprit pour cette vision spirituelle des choses. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'occasions de reprendre courage. C'était simplement l'introduction, mais je voudrais maintenant qu'on aille dans ces bonnes raisons qui nous permettent de prendre courage. Vous inquiétez pas, ça va être très simple. Ces raisons, on les trouve dans la bouche même du Seigneur Jésus dans l'Évangile. Dans Matthieu chapitre 9, on va faire deux lectures. Vous savez ces moments où Jésus a dit « Prends courage ». Regardez l'enseignement dans les paroles que le Seigneur Jésus donne. Est-ce que vous pensez que Jésus, il employait des mots mais il ne les pensait pas ? Oh, que Dieu nous garde d'avoir ces raisonnements-là. Hein. Quand Dieu dit un mot, une parole, c'est suffisant pour donner un enseignement profond. Dans Matthieu chapitre 9 et le verset 2, il est question de cet homme paralytique, on connaît bien l'histoire, on va la relire ensemble. Matthieu 9, 2, « Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Oh là là, mon pauvre !» C'est ça ? Non. « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Car lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. » Et il se leva et alla dans sa maison. Amen. Une des raisons qui fait qu'on peut prendre courage ce matin, c'est de savoir que Jésus pardonne le péché. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je suis sûr que ceux qui assistaient à la scène, même les quatre amis qui étaient là, se sont dit, mais c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu pour qu'il soit guéri, il est paralysé. Seigneur, tu t'es trompé là. Mais Jésus, avec cette vision spirituelle des choses, il sait que le besoin premier et prioritaire pour cet homme, c'était déjà que son cœur soit pardonné. Parce que dans le cœur, il était aussi paralysé. Vous savez qu'on peut avoir ses deux jambes en pleine forme et être paralysé dans le cœur à cause du péché. On peut être boiteux, on peut être aveugle. Il y a plein d'images qu'on trouve dans la parole de Dieu qui montrent les conséquences du péché dans le cœur. Mais Jésus a vu la foi quand même, il y avait de la foi qui, dans le cœur de ces personnes qui ont dit « il faut qu'on apporte auprès de Jésus, il y a quelque chose qui va se passer ». Quand si on amène cet ami-là qui est paralysé, si on l'amène auprès du Seigneur, c'est obligé qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est la foi, frères et sœurs. Quand on vient dans la présence de Dieu, quand on vient dans la communion fraternelle, on sait que la présence de Dieu est là et on sait que quelque chose peut se passer parce que le Seigneur règne. Prends courage, tes péchés sont pardonnés. Quand j'étudie le verbe « pardonner » dans le grec, il y a une profondeur qui est très limitée avec notre français « pardonner ». On trouve cette notion de « lancer » ou de « jeter ». C'est comme si Jésus disait « tes péchés sont jetés loin de toi ». Il y a cette notion de « lâcher », « rejeter » ou « divorcer ». C'est comme si Jésus avait dit « l'alliance entre toi et le péché ». On sait que c'est une alliance avec notre chair. Hein. À cause de notre chair, on est pécheur. Mais Jésus dit, l'alliance entre toi et le péché, elle est rompue. C'est comme s'il y a un divorce, mais un bon divorce, parce que c'est le péché et nous. Et c'est possible. Il y a une question de renvoyer, de licencier. Alors, on n'aime pas vivre ça pour nous, hein, on est d'accord. Ne me licenciez pas, s'il vous plaît. Mais, après ce que je vais dire, non, mais parce que c'est Jésus est en train de dire, tes péchés sont renvoyés. Tes péchés sont, excusez-moi l'expression, sont virés de ta vie. Vous voyez l'image qu'il y a derrière qui est très forte en fait. Beaucoup plus forte que juste pardonner. C'est déjà merveilleux, le pardon de Dieu c'est merveilleux. Mais tout ce que ça signifie, que ce péché est envoyé au loin, qu'il y a quelque chose qui est coupé, qui est barré dans le contrat qui était entre nous et lui, Jésus est en train de dire, non, tu n'as plus rien à voir avec le péché. Il y a encore une question d'abandonner l'accusation contre quelqu'un. Quand on est accusé et qu'on abandonne toutes les charges contre nous. Mais c'est ce que Jésus est en train de dire à cet homme. Tes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus d'accusation contre toi. Tu étais esclave, maintenant tu es libre. Et pourtant cet homme, il est encore sur son lit. Il est encore toujours paralysé physiquement. Mais pensez-vous que dans son cœur, il n'y a pas déjà quelque chose qui s'est passé? Quand Jésus lui-même vous dit, je te donne l'assurance que tu es pardonné de ton péché. Le péché est loin de toi maintenant. Ah, le Seigneur, merci. Ne laissons pas les petits péchés, vous savez, des fois on appelle des petits péchés, c'est un abus de langage parce qu'il n'y a pas de petits péchés devant Dieu. Tout ce qui est mal, tout ce qui nous sépare de Dieu, c'est un péché. Et ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences graves. Il y avait un homme qui a voulu accomplir une marche de New York à San Francisco. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire qu'il a voulu traverser tous les États-Unis, d'un bout à l'autre. Et il a réussi à le faire. Mais donc il a été interviewé et on lui a demandé c'était quoi le plus gros obstacle qu'il a rencontré. Alors, il y en a qui pensaient, est-ce que c'est les pentes? Vous savez, il y avait des grandes montées, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était d'aller dans la montagne, de marcher sur les chemins glissants, de traverser des forêts, enfin, il y avait des grandes étendues sauvages ou alors des déserts. Est-ce que c'était quoi le plus dur? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la chose qui a failli me vaincre et me faire abandonner, c'était le sable dans mes chaussures. Des petites choses qu'on laisse traîner, mais qui, sur le long du chemin, parce que ça représentait des milliers de kilomètres, ont fait en sorte que cet homme a failli. Alors bien sûr, humainement c'est facile, on sort la chaussure, hop, on enlève. Mais je parle du sable qui vient gripper le rouage dans notre cœur. Le péché, c'est ça. C'est pas les gros péchés évidents qu'on va facilement éviter parce qu'on connaît la parole de Dieu, mais ce sont ces petits grains de sable que l'on laisse traîner dans notre cœur et qui font que ça bloque la machine. Jésus, ce matin, nous rappelle que si nous voulons prendre courage, c'est très facile. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Reçois dans la présence du Seigneur le pardon des péchés et viens te repentir et viens recevoir cette grâce que le Seigneur te donne. La deuxième chose que je remarque, c'est qu'il dit « mon enfant ». Quand nous demandons à Jésus de nous pardonner, nous devenons l'enfant du Seigneur. Alors, pour nous tous qui l'avons vécu, on sait que c'est quelque chose d'incroyable. Devenir membre de la famille de Dieu. Alors, il n'y a aucune arrogance, il n'y a aucun... Comment dire, je ne sais pas, on n'est pas là pour s'enorgueillir de ça. C'est tellement une grâce, un privilège. Mais est-ce que vous pensez que le Père Céleste... Alors que nous devenons ses enfants, il ne va pas prendre soin de ses enfants. Ben Jésus, il a dit le contraire. Hein. Dans Matthieu 6 et 7, le Père Céleste, à combien plus forte raison, il va prendre soin de ses enfants, justement. Il va les entourer. S'il a commencé une bonne œuvre dans le cœur de son enfant, est-ce qu'il ne va pas la continuer? Et c'est pour ça que Jésus ne s'est pas arrêté à pardonner les péchés dans le cœur de cet homme, mais il a vu... que pour lui c'était le moment, pour lui c'était le temps de la guérison, c'était le temps du miracle, c'était le temps où les choses allaient être rétablies dans sa vie. Donc il y a eu le pardon de Dieu et en même temps il y avait ce témoignage face à ces personnes qui avaient des mauvaises pensées, il y a eu ce témoignage de la puissance de Jésus. Mais remarquez ce que Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il a guéri cet homme. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, mais les péchés qui sont avoués sur la terre. Il n'y a pas question de... Dans le ciel, on demande pardon dans le ciel et ça sera réglé. Non, 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 c'est sur la terre que l'histoire se passe. Jésus a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Pourtant, il a dit ailleurs, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais là, il précise, le pardon, c'est quand l'homme et la femme se trouvent sur la terre. Après, c'est trop tard. C'est pour ça que ce matin, si le Saint-Esprit montre quelque chose dans notre cœur, vous savez comment ça marche. Quand le Saint-Esprit montre quelque chose, alors qu'on fait cette prière, « Sonde de moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mais qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Il va nous montrer. Hein. C'est tellement facile. « Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et il nous montre. Mais qu'est-ce que nous faisons quand le Seigneur nous montre? Quand le Saint-Esprit appuie là où ça fait mal? « Seigneur, je te demande pardon pour mon péché et je prends courage. » Nous pouvons prendre courage Avec le pardon des péchés, nous pouvons prendre courage car Jésus guérit. Regardez le verset 20. Quelque temps après, cette femme atteinte d'une perte de sang, donc voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, qu'est-ce qu'il lui dit ? « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Nous pouvons prendre courage parce que Jésus est un Dieu qui guérit. Il a la puissance de guérir. On sait que dans certains évangiles, l'histoire est un peu plus précisée, qu'elle a passé des années à souffrir, elle a même été voir les docteurs, elle a eu du mal. Ils n'ont pas réussi à trouver, ils lui ont même sûrement donné des traitements qui étaient très douloureux. Mais elle a compris à un moment donné, en ayant entendu parler du Seigneur, que lui, il avait la capacité de faire quelque chose. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire, lui était capable de le faire. Et remarquez le contexte où ça s'est passé. Est-ce qu'il y avait des gens qui touchaient le Seigneur ? D'ailleurs, c'est dit dans Marc. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et les disciples disent, mais Seigneur, tout le monde te touche. T'es dans une foule, t'es pressé par la foule. Oui, mais quelqu'un m'a touché avec la foi. Frères et sœurs, on peut venir à l'église, on peut chanter, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on n'a pas cette foi qui dit, je veux toucher le Seigneur ce matin, ben, il n'y a rien qui va se passer. Parce que Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. C'est ta foi qui t'a guéri, mon enfant. C'est cette détermination que tu as eue, cette compréhension, elle se disait en elle-même, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous nous disons en nous-mêmes ? Je ne parle pas des paroles que l'on dit, parce qu'on sait que c'est bien qu'il faut... On sait que Jésus guérit, on sait qu'il faut dire ça devant le pasteur, comme ça il sera content. Non, ce n'est pas ça que je parle. Je parle de qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur de vous par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Cette femme, elle a dit, « Si je touche son vêtement, je serai guéri. » On voit quelques chapitres plus loin qu'il y avait maintenant plein de personnes qui ont imité son exemple. Parce que sûrement, ils ont entendu parler de cette histoire et tous ceux qui touchaient son vêtement étaient guéris. Mais là, c'est que elle, parce qu'elle avait une disposition de cœur qui fait qu'elle voulait que ça change dans sa vie. Quand on veut que les choses changent, mais qu'on n'a aucun moyen que ça change, parce qu'on a fait toutes les solutions humaines, il reste toujours la solution divine, la solution de Dieu. Là aussi, le mot « guéri », il a une profondeur, ça veut dire littéralement « mettre hors de danger ». Ça ne veut pas juste dire « guérir », mais ça veut dire « il y a un danger qui est là, et ta foi t'a mis hors de danger ». Ta foi t'a laissé vivre, ta foi t'a tiré d'affaire. Dieu veut guérir nos corps, oui, mais parfois plus que nos corps. Et on sait que dans cette guérison de cette femme, c'était surtout la guérison de son âme dont elle avait besoin, parce qu'elle avait beaucoup souffert, mais surtout psychologiquement. Hein. Et elle a été guérie sur tous les plans. Oh, quand le Seigneur il touche quelque chose, ça a un impact dans plein de domaines. Mais c'est tellement merveilleux de voir le Seigneur qui est capable de guérir. Ah, attention, ça ne veut pas dire que le chrétien n'a jamais de maladie, le chrétien n'a jamais de temps difficile. On sait très bien que ce n'est pas vrai quand on regarde autour de nous. Et on sait que la souffrance parfois est nécessaire. Quelqu'un a dit que le pot en argile posé au soleil sera toujours un pot en argile. Il doit passer par la chaleur blanche du four pour devenir la porcelaine. On a besoin de la fournaise, parfois, pour apprendre à devenir ce que le Seigneur veut que l'on soit. Mais cette femme disait, si je touche son vêtement, je serai guéri. Ce matin, est-ce que quelqu'un a cette disposition dans le cœur ? Si par la foi je touche le bord du vêtement de mon Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Ma situation va changer. Parce qu'il n'y a que lui qui a cette puissance pour le faire. Oh, venez pas toucher ma veste, hein. Il n'y a rien qui va se passer. Je vous le dis d'avance. Mais c'est spirituel. C'est spirituel. Matthieu chapitre 14. Un autre moment où Jésus a dit cette parole. Matthieu 14, verset 24. Alors que Jésus vient d'accomplir le miracle de la multiplication des pains, qu'il a renvoyé la foule, il a envoyé aussi les disciples traverser. Vous connaissez l'histoire, hein? Et voilà ce qu'on lit. La barque est déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Littéralement, c'est « Prenez courage, parce que c'est moi. » Et n'ayez pas peur. C'est la même expression que les deux autres passages qu'on a lus. Prenez courage parce que c'est moi. Nous pouvons prendre courage parce que Jésus est là, là où on ne l'attend pas. Est-ce que vous pensez que les disciples attendaient le Seigneur là? Ben non, pas du tout. Il l'avait laissé sur la montagne. Il était parti prier. Et puis eux, ils sont au milieu d'une tempête. Ils se disent, s'il y a bien un endroit où le Seigneur il n'est pas, c'est là. Est-ce qu'ils avaient raison? Eh bien non, Jésus était là. Alors, ça nous dépasse dans l'aspect cartésien de la chose, ça nous dépasse. Mais après tout, Dieu, il fait ce qu'il veut. Jésus est le Fils de Dieu, il est capable de tout, il maîtrise même les éléments. Et dans cette situation où ces personnes sont troublées, souvenez-vous du premier verset, à celui qui a le cœur troublé, Dieu dit « Prends courage ». Mais on est exactement dans cette situation, ils ont le cœur troublé. Et vous savez que parfois les circonstances font que, à cause du cœur troublé, on voit des choses, on pense des choses qui ne sont pas. Ils pensent que c'est un fantôme. Ils pensent, alors qu'ils ont vécu avec Jésus déjà plusieurs fois, ils ont vu de belles choses, ils croient encore au fantôme. c'est presque risible, mais en même temps on se dit qu'est-ce qu'on aurait cru à leur place? Qu'est-ce que ce serait dit nous? Mais quand on laisse les circonstances nous dicter ce qu'on doit voir, mais souvent on est trompé. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, on a besoin d'entendre cette parole qu'on entend ce matin. Prenez courage, c'est moi. Prenez courage, je suis, littéralement. Vous savez que dans la pensée juive, je suis, c'était Yahvé, c'était l'Éternel. Surtout, il ne fallait pas le dire. Mais Jésus n'avait aucun problème avec ça pour pouvoir rassurer ces personnes. Non seulement il dit « c'est moi Jésus », mais il leur dit « c'est moi le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est éternel, celui qui était avant même la fondation du monde, celui avec lequel Dieu a tout créé. Je suis là. » Quand nous sommes dans la tempête, on a besoin de réaliser qu'on peut prendre courage parce qu'il peut être même là au milieu de la tempête. Regardez les disciples d'Emmaüs, je repensais à eux. Ils étaient dans le découragement, ils étaient dans les mauvais raisonnements, ils étaient dans des certitudes fausses. Et où c'est que se trouvait Jésus? Alors qu'ils ne le voyaient même pas, mais il était avec eux. Vous voyez? Jésus se trouve là quand on est dans le découragement. Mais il ne se trouve pas là pour nous dire « c'est bien, tu es découragé, continue ». Non, non, il nous dit par contre « voilà ce que dit la parole ». La parole te dit de reprendre courage, la parole te dit qu'il y a de l'espérance. Et c'est pour ça qu'ils ont dit après, mais notre cœur brûlait au-dedans de nous lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures. Oh, j'espère que quand vous lisez la parole de Dieu, c'est ce qui se passe. Moi, à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, c'est comme un feu qui sort de cette parole. Parce que le Saint-Esprit donne vie à la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Si je la lis de manière mécanique, intellectuelle, humaine et charnelle, il n'y a rien qui se passe. Mais si je la lis en disant « Je vais toucher le bord du vêtement du Seigneur avec cette parole », là, il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours. C'est une règle, c'est un principe spirituel. Parce que quand on met notre foi dans la parole de Dieu, Dieu honore sa parole. Ce matin, frères et sœurs, Jésus est là. Ce matin, le Seigneur nous dit, je suis là. Prenez courage, c'est moi. Et Pierre a tellement pris courage qu'il est passé de cette réflexion, c'est un fantôme, et au secours, on va mourir, on va tous être noyés. Qu'est-ce qu'il a pensé après ? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Vous voyez le changement de mentalité en un instant ? Il passe du fait qu'il va mourir au secours. Pourtant, c'était tous des marins, ils étaient costauds au niveau de la mer. Oh, au secours, on va tous mourir, on est perdu, on va se noyer. Et juste après, je vais marcher sur l'eau. Mais comment c'est possible de ça ? Mais c'est possible que parce que Jésus dit, c'est moi. Seigneur, puisque c'est toi, ordonne. Jésus a dit, viens. Et on sait ce qui s'est passé, on l'a lu. Il a marché. Il a dominé sur ceux qui avant le terrorisaient. Parce qu'il y a la présence du Seigneur. Ne pensons jamais que nous pouvons dominer quoi que ce soit tout seul. Alors que ça, c'est une tromperie, c'est un mensonge du diable. Mais quand le Seigneur est là, quand le Seigneur parle, et c'est sur la parole, sur la parole du Seigneur qu'il a marché. Si Jésus avait rien dit, surtout il ne fallait pas qu'il y aille, hein, parce qu'il aurait coulé comme une pierre. Mais il a écouté. On sait aussi que, encore une fois, c'est pas parce qu'on vit une belle expérience que tout va bien, puisqu'il a regardé autour finalement. Oh là là, il y a la pluie, il y a la tempête, il y a les éclairs, il y a les vagues, je vais couler. Et au lieu de regarder au Seigneur, il a détourné son regard, il a commencé à couler. Mais même dans ce moment-là, il a dit « Seigneur, sauve-moi ». Et est-ce que le Seigneur l'a laissé ? Non. Il a pris par la main. Quelqu'un a dit cette jolie phrase « La sécurité ne consiste pas en l'absence de danger, mais dans la présence de Dieu ». La vraie sécurité, c'est le fait qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Et même les disciples qui, eux, n'ont pas vécu cette expérience, ont changé dans leur mentalité, puisqu'à la fin, ils viennent se prosterner, et qu'est-ce qu'ils disent ? Tu es véritablement le Fils de Dieu. Oh, ils savaient que c'était un prophète, ils savaient que c'était un homme important, peut-être même le Messie, mais là, ils ont compris que c'était le Fils de Dieu, celui qui avait la maîtrise sur tout, et ils ont fait un pas dans leur foi. Pourtant, ils ont vécu une tempête, mais Jésus leur a donné le courage, et ils ont fait un pas en avant. Je termine avec ce verset. Jean chapitre 16, verset 33. Vous avez vu que les quatre versets sont dans les évangiles. Hein, et les quatre se trouvent dans la bouche de Jésus. C'est très très intéressant de le noter. Jean chapitre 16 et le verset 33. On sait que c'est après pas mal d'enseignements qui sont donnés de la part du Seigneur dans le jardin de Gethsémané avec ses disciples, etc. Et au moment aussi du repas, du dernier repas avec eux. Mais voilà ce qu'il va dire pour conclure. Hein. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Pourtant, Jésus n'a pas encore accompli l'œuvre de la croix. Mais il sait ce qu'il va se passer. Il est pleinement au courant. Et volontairement, il y va. Certains disent, ah, il s'est fait avoir, il s'est fait piéger. Non, non. Le Seigneur sait, il va au-devant même des choses. Parce qu'il sait que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit mourir. Donc il y va. Mais il explique cette réalité. Et parfois, on entend des messages, on entend toutes sortes de choses, comme quoi l'évangile, c'est quelque chose qui masque la réalité des difficultés. Si tu crois, tu vas voir, il ne va rien t'arriver, tu ne seras jamais éprouvé. Mais Jésus dit exactement le contraire ici. Vous aurez des tribulations, et peut-être que vous en aurez plus même parce que je vous laisse mes paroles, et parce que vous allez écouter, et parce que vous allez obéir à mes paroles. Là, si vous ne le faites pas, les gens vont vous laisser tranquille, mais si vous prenez à cœur la parole de Dieu, ça risque de se corser. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Mais, je vous ai prévenu, Et parce que je vous ai dit ces choses, vous pouvez être dans la paix. Est-ce que vous aimez la paix? Oh, combien c'est un cadeau du ciel merveilleux. Combien d'hommes et de femmes ne sont pas dans la paix? Passent par des temps difficiles comme nous tous. On a tous des afflictions finalement. Mais quand on garde la paix de Dieu, parce qu'on garde la parole de Dieu, on reste dans la paix. Jésus a vaincu le monde. Où c'est que ça s'est passé? C'est facile. À la croix, Jésus a vaincu le monde. Et tout ce qu'on a partagé ce matin qui sont des raisons pour qu'on puisse prendre courage, tout ça ne repose que sur une chose, sur l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus montre qu'il a la puissance de pardonner. Le pardon qu'il a effectué pour cet homme paralytique avant l'heure de la croix, c'est véritablement accompli quand il est mort à la croix. Et tous les sacrifices qui ont été apportés pendant des milliers d'années, les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés du peuple d'Israël, ont véritablement pris leur signification quand Jésus est mort à la croix. Et les gens ont véritablement été pardonnés à ce moment-là. Ça, on ne le réalise pas toujours. Croyez-vous que le sang d'un animal est suffisant pour pardonner le péché d'un être humain? Est-ce qu'on vaut un mouton? Je veux dire, c'est clair que non. Mais c'est une image de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, alors que nous prenons la Sainte-Seine, c'est une image de ce qui s'est passé. Mais nous voulons, en prenant ce repas, nous souvenir que Jésus a le pouvoir de pardonner. Jésus a le pouvoir de guérir. Jésus a le pouvoir d'être là, même là où on ne l'attend pas. Jésus a le pouvoir de vaincre le monde. Le monde est déterminé à freiner les enfants de Dieu. Le monde est déterminé à persécuter, dans certains pays, on le sait que ça se passe comme ça, mais à être des obstacles contre les enfants du Seigneur. Mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des afflictions, vous aurez des soucis, mais vous pourrez prendre courage parce que moi j'ai vaincu. À la croix, j'ai tout vaincu. Amen. Souvenez-vous de ce qu'on a partagé au début. Affermissez les genoux qui chancellent. Fortifiez les mains languissantes. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voilà le message que le Seigneur a mis fortement sur mon cœur pour que vous puissiez l'entendre ce matin. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des personnes languissantes. Il sait qu'il y a des personnes chancelantes. Il sait qu'il y a des personnes qui ont le cœur troublé. Et c'est normal, on est humain, ça arrive à certains moments. Mais devant nous, ce matin, une table est dressée. Oui, il y a cette table de la Sainte-Seine, mais je parle de cette table spirituelle à laquelle tous peuvent accéder. Cette table spirituelle devant laquelle le Seigneur dit « Prends courage, mon enfant ». Il dresse une table en face de nos adversaires. C'est une réalité ce matin, c'est une réalité spirituelle. Est-ce que nous allons laisser nos regards s'attarder sur les afflictions de ce monde, ou est-ce que nous allons lever les yeux vers le ciel et regarder plus haut, voir cette table qui est dressée de la bénédiction, de la grâce, du pardon, de la guérison, de la présence de Dieu qui est là. Un moment où je touche le Seigneur par la foi et les choses changent. Et ma mentalité est changée. Et mes raisonnements sont balayés. Et mes forteresses de pensée s'écroulent. Et je viens auprès de mon Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, entendons la voix du Seigneur qui dit « Prends courage, mon enfant. Prends courage. Prends ce courage que j'ai mis devant toi. Éternel, je te demande de bénir toutes ces personnes, Seigneur, dans ce lieu. De nous bénir les uns et les autres. Tu connais les circonstances de nos vies. Tu sais pourquoi cette parole a besoin d'être prononcée à nouveau ce matin. Parce que tu connais chacun en particulier. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions être de ceux qui par la foi prennent courage, de ceux qui par la foi se fortifient, s'affermissent, qui mettent confiance dans ta parole et qui la laissent apporter la vie. Oui, Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit souffle dans les cœurs, mais que là où il y a des genoux chancelants, il y a la force qui vienne. Là où il y a le trouble, ça soit la paix et la vérité qui soient des assurances dans le cœur, Seigneur. Ton Saint-Esprit est là et il agit avec puissance dans le cœur de ceux qui ouvrent la porte. Seigneur, je veux ouvrir la porte pour que tu agisses en moi. Et je te prie de le faire pour tous les bien-aimés qui sont dans ce lieu. Merci Éternel. Amen.